Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie d'Onde Noire. Corinne, de quoi vas-tu nous parler maintenant?
Tu étais partie, donc j'attendais. Donc moi, je vais vous parler d'un livre de Craig Johnson. C'est le troisième paru chez Gallmeister. Il vient de sortir il y a un ou deux mois. C'est un livre qui s'appelle L'Indien Blanc et il est traduit par Sophie. Alors, je suis désolée. Désolée, Sophie. Je ne sais pas si on dit Aslanides ou Aslanide. Ce roman commence par un conte et se termine par un autre, très semblable. Il faut dire que l'auteur, Craig Johnson, il a un vrai talent de conteur pour nous faire partager la vie et les aventures de Walt Longmire, qui est un shérif dans le comté d'Absaroka. Et n'oublions pas son ami, Henry Standing Bear, dont la sagesse égale la force physique. Ce qui, dès les enquêtes de Longmire, peut servir, dans un cas d'ailleurs, comme dans l'autre. Comme je l'ai dit, c'est le troisième roman traduit, le troisième roman où on retrouve Walt Longmire. Et là, le shérif quitte ses forêts enchantées, vous comprendrez pourquoi si vous lisez les deux premiers, pour la ville, Philadelphie. Ville où, c'est le titre en anglais, je le traduis, la gentillesse ne reste jamais impunie. Et surtout où vit Caddy, la plus grande juriste de son temps. Ça, c'est ainsi que l'appelle affectueusement son père, Walt Longmire. Mais dès l'arrivée de Walt à Philadelphie, Caddy est agressé, se retrouve dans un coma profond. D'ailleurs, là, je pense qu'on a une espèce de métaphore. Elle s'endort, ainsi que la princesse des contes, et ainsi qu'un prince charmant et un héros magnifique, Walt Longmire va donc tout faire pour la réveiller, surtout comprendre pourquoi elle a été agressée et pourquoi, juste après, son compagnon, Devon Conlife, que Walt n'a même pas eu le temps de connaître, est assassiné. Le shérif, là, il n'est pas dans son milieu, ni même dans sa juridiction. Et aux États-Unis, c'est très catégorisé. Mais il va quand même avoir la possibilité d'enquêter. Et je peux vous dire que les coups et les agressions vont pleuvoir. Malgré tout, il peut compter sur l'aide de la famille Moretti. Alors, ça ne vous dit rien si vous n'avez pas lu les précédents, mais Vic Moretti, depuis le début, c'est son adjointe. Elle est restée dans les forêts lointaines, mais elle a un peu la trouille pour son patron favori. Donc, pardon, elle vient le rejoindre. Bien évidemment, il va être aidé de Henry Standing Bear, qui le veille fidèlement. Walt Longmire est aidé d'un très mystérieux Indien blanc qui s'appelle William White Eyes, traduit par l'Indien blanc, qui est donc le titre du roman. Ce livre, il est à la croisée des chemins entre un roman noir et un western, avec une scène finale d'ailleurs digne des meilleurs duels du genre. On retrouve un peu certains films, quoi. Ce roman, c'est aussi une très belle déclaration d'amour et d'amitié pour l'être humain. Walt Longmire, évidemment, c'est les mots de Craig Johnson, dit « Peut-être que la mort n'existe pas. Peut-être que la vie nous use à force d'amour, c'est tout. » Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle phrase et une très belle déclaration. Longmire, il est très loin des personnages à la dérive, qui sont eux aussi passionnants dans le roman noir actuel. Ce shérif, en fait, il est lui aussi blessé et cassé par la vie, mais il a une foi incroyable en ses congénères. Et il en a une empathie touchante pour autrui. Attention, ça l'empêche pas de faire justice sans coup férir quand l'occasion s'en présente, et il est loin d'être un tendre, et il peut casser la figure, voire plus à autrui si c'est un méchant. Autre qualité du roman, l'écriture très maîtrisée de Craig Johnson. Alternance de scènes lentes, toutes les veilles à l'hôpital où il attend que sa fille se réveille, et puis les scènes trépidantes, l'enquête autour de l'agression de Caddy. L'auteur excelle aussi à nous raconter les us et coutumes de ses amis les Indiens. On avait déjà pris l'habitude dans les deux premiers, mais là il continue. Fussent-ils d'ailleurs ces Indiens urbanisés et dépaysés dans la grande ville? Donc en gros, je dirais que c'est un roman qui fait du bien, même si de temps en temps il y a des côtés très noirs. Jacques, c'est à toi, parce que là, vraiment, je ne peux plus parler.
Donc, je vais vous parler d'un autre roman qui se passe aux États-Unis. C'est un roman de Ace Atkins qui s'appelle Le Jardin du Diable. Il est publié aux éditions du Masque, dans la grande collection. Et il est traduit par Christophe Mercier. Donc, nous sommes au début du roman, même à la fin d'ailleurs, en 1921, à San Francisco. Et là, un détective, disons, souffreteux, de la tristement célèbre agence Pinkerton, va enquêter sur une affaire qui fait la une de tous les journaux. le procès de Roscoe Hardbuckle, dit Fatty. Alors Hardbuckle, vous le connaissez peut-être, il est accusé d'avoir tué, ou plus ou moins provoqué la mort par asphyxie et étouffement, d'une jeune actrice lors d'une partie très arrosée dans un hôtel de San Francisco. Petite précision, en 1921, c'est la deuxième année du Volstead Act, c'est-à-dire le 18e amendement, la prohibition. Mais la partie est quand même bien arrosée, parce que l'alcool circulait bien évidemment pratiquement autant qu'avant la prohibition. Ce Fatty Hardbuckle, je disais donc, c'est un très célèbre acteur, un vrai, hein, cette histoire-là est absolument...
Oui, c'est
une histoire vraie. C'est un célèbre acteur et metteur en scène de l'époque du cinéma muet. Il est un petit peu beaucoup enveloppé, comme son surnom, Fatty, qui veut dire gros, le laisse supposer. C'était un metteur en scène, c'était l'ami aussi, entre autres, de Buster Keaton. Le détective souffreteux dont je parlais au début s'appelle Samuel Hamet. Vous le connaissez probablement sous son nom de plume, qui est Dashiell Hamet.
Qui a été lui-même détective, voilà. Donc à l'agence Wincarton.
Et donc en fait, c'est une histoire à peu près vraie, disons. On ne sait pas si Hamet a vraiment enquêté sur cette histoire, mais en tous les cas, S. Atkins le raconte comme tel.
Il raboute des éléments vrais de vérité.
Hamet va donc enquêter pour savoir ce qui s'est vraiment passé dans cette chambre de l'hôtel Saint-Francis. Les versions divergent, mais de nombreuses versions donc tendent à incriminer Fatty. Pourtant, ça ne satisfait pas vraiment notre futur écrivain. Surtout que les journaux du célèbre Randolph Wallace Hearst vont, tous dans le même sens d'incriminer
Hardbuckle.
Et donc, S. Atkins va nous décrire ce San Francisco des années 20, les prémices de la dépression. Et pourtant, on est au milieu, c'est les Roaring Twenties, comme on disait à l'époque. Et on est au milieu de la vie dissolue de certains riches de l'époque qui vivent dans une quasi-impunité, quasi-totale, avec la corruption, et les influences. Bref, le sordide l'emporte beaucoup dans cette histoire. Alors, on avait déjà rencontré S. Atkins, on le savait très féru de musique, de blues. On l'avait découvert dans un roman qui s'appelait Blues Bar, qui était paru dans la même collection du Masque, qui a été réédité en poche chez Rivage, où il nous racontait l'histoire du début du blues. Et là, on se rend compte qu'il connaît bien la musique, mais il connaît bien aussi le monde du cinéma. Ou tout du moins celui, pour l'instant, du moins de la fin du cinéma muet. Alors, dans ce roman, on va croiser Charlie Chaplin, qui commence à faire de l'ombre aux Américains locaux, si j'ose dire, aux cinéastes...
Ah oui, j'étais étonné, parce que les Américains, qu'à San Francisco, il y ait des Américains, c'est pas très étonnant,
à Hollywood, lui, c'est un Anglais, je vous rappelle. Et puis on y croise, j'en ai déjà parlé, donc Randolph Hearst, qui dans ce roman n'est pas vraiment décrit à son avantage. Il faut dire que c'était quand même pas un mec terriblement sympathique. Au cours de cette enquête, donc, du moins d'après ce que raconte S. Atkins, c'est là que Hamet décide de passer de Samuel et de changer de métier pour devenir Dashiell. Et il va commencer d'ailleurs dans le roman à un moment à envoyer ses premières nouvelles à Black Mask. Et un peu comme pour argumenter ce fait, le premier du chapitre du roman, qui restitue un peu pour le lecteur le Pinkertonien, j'ose dire, Pinkertonien Hamet, le premier chapitre se passe en 1917 dans le Montana et ressemble vraiment beaucoup à ce que sera dans le premier roman en 1929, qui s'appelle Moisson Rouge, de Dashiell Hamet, le début du roman. Ça ressemble beaucoup, et c'est pour resituer Dashiell Hamet en tant que détective de la Pinkerton. C'est un roman, moi, que je pense immanquable pour les amateurs de Dashiell Hamet, pour ceux de S. Atkins, parce qu'il a déjà écrit 3-4 romans au masque, et pour les amateurs de bon polar. J'allais le préciser, que si vous êtes intéressé par cette histoire assez étonnante de Roscoe Hardbuckle, Fatty, je voudrais vous conseiller de lire un roman biographique, c'est une biographie, mais c'est vraiment très très romancé, de Jerry Stahl. Le roman s'appelait « Moi, Fatty », et il raconte tout ou presque, alors là carrément toute l'histoire de Hardbuckle avec cette période qui est quand même qui est quand même plutôt importante.
On peut rappeler quand même que la différence entre vraiment les deux, c'est que S. Atkins utilise, comme d'ailleurs assez régulièrement chez les auteurs de polar, des éléments vrais de biographie ou de d'histoire vraie pour ensuite vraiment romancer et raconter.
Tout à fait. Sauf que effectivement, tous les faits divers, les articles de journaux qu'il cite sont des véritables articles et la la campagne qu'a menée Hertz contre Fatih est vraie aussi. Il faut dire que une des témoins du meurtre, enfin du présumé meurtre, était sa maîtresse.
Voilà. Je crois que tu as omis de citer le traducteur.
Non, je l'ai dit, Christophe Mercier.
Voilà. Donc, Essatine, le jardin du diable, et un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Donc, j'ai choisi un morceau qui s'appelle The Whale Has Swallowed Me, puisque donc le whale, je vous rappelle qu'en anglais, c'est la baleine. Puisque Fatih est gros, le morceau c'est un vieux blues de c'est un vieux blues de J.B. Lenoir qui a été écrit dans les années 50 je pense, et le chanteur et pianiste c'est Hugh Laurie.
Say the whale swallowed Jonah out in the deep blue sea. Sometimes I get that feeling, same old whale has swallowed me. Sunrise in the east, goes down in the west. Sometimes I get that feeling, every creature needs some rest. Turn me
Et voilà, les dernières notes de musique de ce blues ancien. Alors Jacques, dévoile-nous Hugh Laurie, ça rappelle quand même quelque chose à beaucoup de monde.
Hugh Laurie, oui, dans la vie, il n'est pas forcément que chanteur, pianiste et guitariste.
Il est surtout connu.
Il est surtout connu comme acteur, et essentiellement acteur dans une série culte à succès dont je te laisse dire le nom.
Dr House. En fait, c'est surtout culte parce qu'il est beau comme un dieu, quoi. Faut bien le dire. Faut tout le dire. Donc moi, pour terminer, je vais vous parler d'un roman qui est donc, on va dire, plus drôle quand même que tous ceux dont on vient de vous parler. Ça s'appelle « Les vacances d'un serial killer ». C'est de Nadine Monfils et ça vient d'être publié chez Belfond. Nadine Monfils va nous entraîner à la suite des, ce que je vais appeler, les Dupont-la-Joie belges. Il s'appelle pas Dupont-la-Joie, il s'appelle les Destroupeurs. Et on aurait pu sous-intituler « Les vacances d'un serial killer », « Les Destroupeurs partent en vacances à la mer ». Derrière, la voiture que bichonne le mari, la caravane, comme il se doit évidemment, c'est la caravane de la mémé. On l'emmène en vacances, elle, on daigne l'emmener en vacances, parce que la dernière fois qu'on l'a laissée à la maison, elle a ouvert la porte au cambrioleur, donc ça fait un peu désordre. Je dirais que plus qu'un jour, plus que toujours. Depuis le père, Alphonse, alors lui, fabricant de boulettes sauce lapin. Si, ça existe, les boulettes sauce lapin à Liège, je vous les conseille d'ailleurs. Hein. Il est amoureux des, deux points, ouvrez les guillemets, chansons à texte de Sheila. Ensuite, on a les enfants, nommés Steven, en hommage à Steven Seagal, et Lourdes, comme la fille de Madonna. C'est vous dire s'il y en a sous le chapeau de Josette, la mère. Sur la route des vacances, il va y avoir beaucoup, beaucoup de surprises qui attendent ces héros bien ordinaires, mais quand même totalement étonnifiants à la fois. Nadine Monfils, on le sait depuis longtemps, c'est une conteuse hors pair et elle leur a concocté un sacré programme. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à eux, tous les personnages qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure, on va dire que le sort, c'est-à-dire en fait l'écrivain Nadine Monfils, va leur mettre dans les pattes, vont en prendre plein la tête. Personnage d'ailleurs que nous aurons tendance à plaindre, car croiser un membre de la famille Destroupeurs en vacances n'est pas de tout repos. À part que des fois, il est éternel. Ça va à un rythme d'enfer, les catastrophes et les cadavres s'accumulent dans une atmosphère étrange, on va dire hyper réaliste, surréaliste, il faut bien le dire, totalement déjanté. C'est d'ailleurs peut-être un pléonasme. L'écrivain belge, elle a un imaginaire très particulier et elle sait très bien nous le restituer dans les romans. Univers onirique qui emprunte donc dans les contes et elle aime aussi à raconter ces contes-là des situations fantasmagoriques. On a parfois l'impression d'être dans un univers parallèle, d'être passé juste à côté d'une autre, très proche malgré tout d'une société qu'elle observe de son œil malicieux et tendre, mais pour nous la dépeindre d'une plume corrosive et toute trempée d'un humour ravageur. Attention, derrière les formules qui nous font rire, je vous les laisse découvrir, Nadine Monfils nous raconte toute sa tendresse et son amour pour ses semblables, à mi-chemin des envolées déconnantes d'un Michel Audiard et du monde tout en poésie de Jacques Tati. N'hésitez pas, les vacances d'un serial killer, Nadine Monfils. Et voilà, l'émission se termine. Nous vous retrouvons bientôt sur ces ondes. Bonne lecture, au revoir.
Au revoir.